de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo s'entretient avec le président Erdogan. Président Jokowi tient une réunion bilatérale avec le président de la Commission européenne. Le président Jokowi tient une réunion bilatérale avec le premier ministre japonais. Secrétaire général de l'ONU exhorte les pays du G20 à travailler ensemble sur le climat. Ministère de l'Investissement présente officiellement le Bali Compendium G20. W20 appelle les dirigeants du G20 à déclarer l'importance de l'égalité des sexes. L'Indonésie a un bel avenir, a déclaré Elon Musk. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l'Approva Kempinski Bali, lundi. Au cours de la réunion, le président Jokowi a exprimé sa gratitude à la Turquie pour continuer à contribuer afin que le G20 puisse continuer à travailler. En ce qui concerne les relations bilatérales, le président Jokowi a encouragé les deux pays à poursuivre les négociations sur l'accord de partenariat économique global, CEPA, qui comprend un accord commercial majeur à conclure immédiatement. Les deux présidents ont également noté des progrès dans les relations bilatérales entre les deux pays avec la signature de plusieurs accords stratégiques entre gouvernements et entre acteurs économiques. Le président Jokowi encourage que les négociations de coopération entre l'Indonésie et l'Union européenne par le biais de l'accord de partenariat économique global, CEPA, peuvent faire des progrès significatifs. C'est ce qu'il a dit lors d'une rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'Approva Kempinski Bali lundi. En tant que président de l'ASEAN en 2023, le président Jokowi souhaite également que la coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne se renforce. Entre-temps, la présidente de la Commission européenne a apprécié le leadership de l'Indonésie au sein du G20 qui continue de chercher à formuler une solution commune à la crise mondiale. L'Indonésie est considérée comme un partenaire de confiance sur diverses questions stratégiques, notamment les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Le président Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre japonais Fumio Kishida à la prouva Kempinski-Bali lundi. Le président Jokowi a invité le premier ministre Kishida à faire du sommet du G20 un succès afin de produire une déclaration commune. Concernant la coopération économique avec le Japon, le président Jokowi a fait pression pour l'achèvement de l'IGPA, cet accord de partenariat économique Indonésie-Japon. Le président Jokowi a également apprécié la signature du protocole d'accord pour la poursuite de la phase 1 du MRT aujourd'hui et la coopération pour l'étude de phase 3 du MRT fin octobre dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté lundi les pays du G20 à travailler ensemble pour ralentir le réchauffement climatique, affirmant qu'une action lente déterminera le sort de la planète. Cela a été transmis par Guterres avant le sommet annuel du G20 à Bali, cité par Reuters. Antonio Guterres a précédemment proposé un pacte de solidarité climatique. Les pays développés déploient des efforts supplémentaires pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius, tout en fournissant une assistance financière et technique pour accélérer la transition des pays en développement vers des sources d'énergie renouvelable. Selon Antonio Guterres, la lenteur de l'action du G20 déterminera si chaque membre de la famille humaine a la possibilité de vivre de manière durable et pacifique sur une planète saine. Le ministère de l'Investissement, Investment Coordinating Board, BKPM, a officiellement introduit le Bali Compendium pour encourager le respect mutuel des politiques d'investissement de chaque pays du G20 en fonction de leurs atouts. Le ministre de l'Investissement, chef du BKPM, Bahlil Lahadalia, dans l'introduction au G20 Bali Compendium and the Launch of Sustainable Investment Guideline à Jimbaran, Bali, lundi, a expliqué que le Bali Compendium est l'un des résultats de l'accord sur l'investissement cluster lors de la réunion ministérielle du G20 ou du commerce, de la réunion ministérielle de l'investissement et de l'industrie en septembre dernier. À cette occasion, Bahlil a également exprimé sa gratitude pour la coopération de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUCED, qui a compilé ce compendium de Bali avec le ministère de l'Investissement qui sera ensuite utilisé comme guide par les pays du G20. Le président du W20 Indonésie, Adriani Ulisilalahi, a déclaré « Le W20 Indonésie continue constamment d'appeler les dirigeants du G20 à publier des déclarations qui mettent l'accent sur l'importance de l'égalité des sexes. » C'était la publication du Post Summit Women 20 qui a été publiée lundi. Lors de la dernière réunion du W20, l'Indonésie a également assuré la mise en œuvre des 4 programmes principaux, à savoir déléguer le rôle du W20 à la communauté au sein large afin qu'elle puisse contribuer à l'environnement environnant et veiller à ce que le communiqué du W20 soit correctement transmis aux dirigeants du G20. En outre, faire connaître les recommandations du W20 aux dirigeants du G20, aux SERPA, aux organisations de femmes, aux universitaires, aux parties prenantes et au public en tant qu'objectif principal sur l'autonomisation des femmes ainsi que le processus de rapport et de transfert du comité W20 l'Indonésie à la délégation W20 Inde. Le fondateur de Tesla Motors, Elon Musk, voit l'Indonésie comme ayant un très bel avenir, porté par une importante population jeune et une recherche énergétique. Il l'a dit lors d'un discours virtuel lors du sommet du V20 à Nusa Dua lundi. Il a également déclaré que l'Indonésie pourrait être un excellent pays pour la construction d'un écosystème de véhicules électriques, étant donné que l'Indonésie a le potentiel de matières premières pour les batteries de véhicules électriques comme le nickel. Auparavant, Elon Musk devait être physiquement présent à une série de sommets du G20, dont le sommet du B20. Cependant, Musk a annulé sa visite en Indonésie et a choisi de participer en ligne. Bon, cher Gétard, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Sommet du G20 de l'Indonésie au monde ». Ce jour, le sommet du groupe des 20, sommet du G20, aura lieu les 15 et 16 novembre 2022. On peut dire que l'attention du monde est désormais tournée vers Bali en Indonésie. Certaines choses importantes deviendront l'histoire du G20. Le monde attend avec l'impatience des engagements importants sur les questions mondiales. L'engagement prend la forme d'un travail concret du G20. Les résultats concrets de la présidence indonésienne du G20 en 2022 ont été soulignés par le président Joko Widodo, le chef de l'État, l'a réitéré lors de sa rencontre bilatérale avec plusieurs chefs d'État. Comme lors de la rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Joe Biden. Lors de plusieurs réunions bilatérales, le président Joko Widodo a souligné que les résultats concrets du G20 que le monde attendait pouvaient être passé. Pendant ce temps, lors de sa rencontre avec le premier ministre japonais Fumio Kishida, le président Joe Kowi a déclaré que les attentes du monde étaient très élevées pour le G20 en tant que catalyseur de la reprise mondiale. Le succès du G20 est une responsabilité partagée de tous les pays du G20. Un résultat concret qui a été lancé est le fonds de lutte contre la pandémie qui a été inauguré par le président Joko Widodo le 13 novembre. Le Pandemic Fund a réussi à lever 1,4 milliard de dollars auprès de 20 contributeurs, à savoir des membres du G20 du pays, des membres du G20 et trois institutions philanthropiques mondiales. En effet, le montant collecté n'a pas atteint l'objectif, citant la page kemenku.go.id, basée sur les résultats d'une étude menée par la Banque mondiale et les organisations mondiales de la santé. Au début de cette année, le financement d'un fonds pandémique nécessite 31,1 milliards de dollars par an. Le président Joko Widodo s'attend à un soutien et à une contribution accrue pour que les fonds destinés à la pandémie soient utilisés pour financer les systèmes de prévention, de préparation et de la réponse aux futures pandémies. Lors du sommet des chefs d'État des deux jours, on espère également que le texte des déclarations des chefs d'État sur trois secteurs prioritaires, à savoir le renforcement de l'architecture mondiale de la santé, la transformation numérique et la transition énergétique, sera produit. L'Indonésie peut être fière d'avoir réussi à mener à bien les tâches de la présidence du G20 de 2022. De plus, comme l'a déclaré le président Jokowi, la présidence de G20 de cette année est la plus difficile de l'histoire du G20. Cependant, la présence de 17 chefs d'État est la preuve que l'Indonésie a réussi à inviter le monde à Recover Together, Bank It Mighty, Recover Together, Recover Stronger. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui, avec moi Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 15 novembre 1945, la naissance du corps des marines indonésiens. Chers amis, le 15 novembre 1945, le corps des marines indonésiennes a été créé à la base 4 Alri, ces marines de la République d'Indonésie, Tegal, Java centrale. Initialement, le corps des marines faisait partie de l'armée. En 1948, le corps de commandement de la marine et l'armée Command Corps ont été formés au KKO AL et KKO AD. Mais en 1975, l'existence du nom du Naval Command Corps a été rendue au Marine Corps, conformément à l'histoire de la naissance du corps depuis 1945. Nous continuons avec l'événement du 15 novembre 1946, négociation de Linggarjati. La négociation de Linggarjati était une négociation entre l'Indonésie et les Pays-Bas à Linggarjati, Java occidentale, qui a abouti à un accord concernant le statut de l'indépendance de l'Indonésie. Dans cette négociation, l'Indonésie était représentée par Sultan Shahrir, tandis que les Pays-Bas étaient représentés par une équipe appelée le General Commission dirigée par Wim Schermerhorn, avec les membres H.J. Van Mook, avec Lord Killer d'Angleterre agissant comme médiateur dans ces négociations. Les résultats de ces négociations ont été signés par les deux pays le 25 mars 1947. Les négociations ont abouti à 17 articles qui stipulaient, entre autres, que les Pays-Bas reconnus le territoire de facto de la République d'Indonésie, à savoir Java, Sumatra et Madura. Les Pays-Bas doivent quitter le territoire de la République d'Indonésie à plus tard le 1er janvier 1949. Donc, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 15 novembre, journée mondiale des maladies pulmonaires. Chers amis, le 15 novembre est commémoré comme la journée mondiale de la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou souvent abrégée en MPOC. La journée mondiale de la MPOC est commémorée par l'Initiative mondiale contre la maladie pulmonaire obstructive chronique, GOT. Tous les mercredis de la deuxième ou troisième semaine de novembre. Depuis 2002, Monde, la journée de la MPOC est célébrée chaque année le 15 novembre. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan di detik saat kau katakan ya. Oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah
ku menangkan hatimu, oh yeah. Pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita, lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Jadi selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée « Chine offre à l'Indonésie l'opportunité d'augmenter ses exportations de produits agricoles ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chaque jour, la Chine ouvre des opportunités à l'Indonésie pour continuer à augmenter ses exportations de produits agricoles compte tenu des besoins alimentaires élevés de la population du pays le plus peuplé du monde. Comme cité sur la page Antara, 11 novembre, le vice-ministre du Commerce de la République populaire de Chine, Wang Shouwen, à Pékin, vendredi 11 novembre, a déclaré que la valeur des exportations de produits agricoles indonésiens vers la Chine augmentait chaque année de 8% dans la dernière décennie. Cependant, selon lui, jusqu'à présent, la part de l'Indonésie n'est que de 4% des importations totales de produits agricoles chinois. Dans la promotion du commerce des produits agricoles sino-indonésiens, a déclaré Wang Shouwen, on peut interpréter que le potentiel du marché pour les importations de produits agricoles chinois en provenance d'Indonésie est encore très important et que les perspectives sont toujours très prometteuses. L'année dernière, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine importerait des produits agricoles des pays membres de l'ASEAN pour un montant de 150 millions de dollars américains ou environ 2,34 billions de roupies au cours des 5 prochaines années. Selon le président Xi, cela offrira certainement à l'Indonésie de plus grandes opportunités d'accroître ses exportations de produits agricoles vers la Chine. Lors de l'événement de promotion du commerce des produits agricoles entre la Chine et l'Indonésie, pas moins de 8 associations commerciales d'Indonésie ont signé un contrat commercial pour les produits agricoles. L'un de ces contrats prévoit que la Chine achète 2,5 millions de tonnes d'huile de palme et ses produits dérivés d'une valeur de 2,6 milliards de dollars américains ou environ 40,3 billions de roupies en Indonésie. Pendant ce temps, le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Zulkifli Hasan, dans son discours virtuel, a exprimé sa plus haute appréciation pour la réalisation de l'accord de contrat commercial. Zulkifli estime que l'enthousiasme des associations et des acteurs commerciaux indonésiens à établir une coopération étroite avec la Chine peut créer des collaborations à long terme qui sont mutuellement bénéfiques pour les deux parties au milieu des défis mondiaux. Il a déclaré que la valeur des exportations d'huile de palme et de ses produits dérivés de l'Indonésie vers la Chine en 2021 atteindrait 6,6 millions de tonnes, soit une augmentation de 14,17% par rapport à la réalisation de 2020. D'autre part, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun, dans son discours virtuel depuis Bali, a déclaré que la signature du contrat d'achat d'huile de palme faisait suite à l'accord conclu entre le président indonésien Joko Widodo et le président chinois Xi Jinping. L'accord a été conclu lors de la visite du président Jokowi à Pékin fin juillet de cette année. Par ailleurs, l'ambassadeur de Chine en Indonésie, Liu Kang, a ajouté que l'huile de palme, les produits de la pêche, les nids d'hirondelles et les produits agricoles sont étroitement liés aux moyens de subsistance du peuple indonésien. La Chine est un grand consommateur et importateur de produits agricoles. L'ambassadeur Liu Kang a souligné l'importance pour l'Indonésie d'augmenter les exportations de ses produits vers la Chine. Bon, chers joueurs, c'est tout, mon Indonésie. Oh, what's mine is mine. He ain't the one for you. Oh, what's mine is mine. He ain't the one for you. I see the way you look at him. We're playing every little memory you have of him. Say you think so he remembers. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à notre antenne La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter l'objet touristique de l'île de Serangan à Bali. Le chef du Bureau de Tourisme de Denpasar, Desiree Mulyani, a déclaré que la délégation du sommet du G20 visiterait 4 objets touristiques dans la région de l'île de Serangan, dans le district de Serangan, au sud de Denpasar, à Bali. Les 4 objets touristiques qui seront visités par la délégation du G20 dans la région, souvent appelée l'île de Serangan, sont l'objet du temple Sakinan, de la mosquée de Ashuhada, du centre de conservation et d'éducation des tortues et de Kura-Kura Bali. Desiree a expliqué que la raison du choix de la région de l'île de Serangan comme lieu de la visite de la délégation du G20 était parce qu'elle était connue comme un paysage de la ville historique. Il y a un temple unique dans la zone côtière et l'harmonie religieuse. De plus, il y a la préservation de l'environnement dans le centre de conservation et d'éducation des tortues. L'île de Serangan est située à 500 mètres au sud du centre-ville de Bali et reliée à l'île de Bali par un pont. Cette île est devenue si célèbre et visitée par de nombreux touristes en raison de ses attractions touristiques, telles que 4 attractions touristiques qui seront visitées par les délégués du sommet du G20, entre autres un temple Sakinan. Ce temple est un temple sacré pour les hindous et a sa propre valeur historique. Ce temple a été construit par Empu Kuturan ou communément appelé Empu Raja Kreta au Xe siècle. Ce temple est encore utilisé pour le culte par les hindous à Bali. La communauté hindoue de cette île vit côte à côte avec la communauté musulmane. Il y a aussi la mosquée Ashuhada. Elle a été construite sur une superficie de 187 mètres carrés. Depuis sa construction au XVIIe siècle, l'architecture du bâtiment de la mosquée est toujours conservée jusqu'à présent. La particularité de la mosquée est qu'il y a des reliques du Coran qui ont 200 ans. La feuille coranique est faite de feuilles et recouverte d'une couverture en peau de vache. Il y a aussi le centre de conservation et d'éducation des tortues, et ouvert le 20 janvier 2006 sur l'île de Serangan. Il est développé dans le cadre d'une stratégie de lutte contre le commerce des tortues, tout en créant une économie alternative pour la communauté locale. Dans cette zone de conservation, les touristes peuvent voir l'écloserie des tortues à partir de l'endroit où elles pondent leurs œufs, l'incubation, l'éclosion et l'entretien. En plus de cela, vous pouvez également voir des bébés de tortues ou nouveau-nés, même des tortues adultes qui ont des dizaines d'années. Kura-Kura Bali est un centre d'élevage de tortues. Ici, les touristes peuvent également voir la reproduction des tortues. Selon le chef du bureau du tourisme de Denpasar, Desiree Mulyani, l'accueil de la délégation du sommet du G20, spécifiquement pour le temple Sakinan et la mosquée Ashuhada, a été équipé d'installations d'information numérique. Les visiteurs peuvent scanner le code QR et une histoire sur l'objet apparaîtra dans la fonction de réalité augmentée. Pour la capacité de chaque objet, entre 20 jusqu'à plus de 100 personnes. La mosquée Ashuhada, 20 jusqu'à 30 personnes. Le centre de conservation et d'éducation des tortues, 50 jusqu'à 100 personnes. Le temple Sakinan et Kura Kura Bali, plus de 100 personnes. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Wajib bersama pemandu wisata. Wajib bersama pemandu wisata. En français, toujours avec le guide touristique. C'est obligatoire. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Wajib bersama pemandu wisata. Wajib bersama pemandu wisata. Toujours avec le guide touristique, c'est obligatoire. Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et un guide touristique à Labuan Bajo. Le guide touristique a déclaré que les touristes venant sur l'île de Komodo doivent être accompagnés d'un guide touristique. Bonne écoute.
Kalau saya datang ke sini sendiri, boleh tidak?
Tidak boleh. Wisatawan wajib datang bersama pemandu.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Wajib bersama pemandu wisata. Wajib bersama pemandu wisata. En français, toujours avec le guide touristique, c'est obligatoire. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Datang, datang, venir. Sendiri, sendiri, seul. Boleh tidak, c'est possible ou pas? Kalau saya datang ke sini sendiri, boleh tidak? Kalau saya datang ke sini sendiri, boleh tidak? Si je viens seul ici, c'est possible ou pas? Tidak boleh. Tidak boleh. Pas possible. Wisatawan. Wisatawan. Touriste. Wajib. Wajib. Obligatoire. Bersama. Bersama. Avec. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Guide touristique. Tidak boleh. Wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata. Tidak boleh. Wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata. Pas possible. Les touristes doivent venir avec le guide touristique. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu l'expression Wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata. Wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata. Les touristes doivent venir avec des guides touristiques. Dans ce discours, il y a le mot wajib, wajib, obligatoire. Le mot wajib, wajib, obligatoire est utilisé pour transmettre des informations concernant les règles à suivre. Si vous liez ou entendez qu'il y a un mot obligatoire dans une annonce, dans un lieu touristique, vous devez suivre cette règle. Dans cette annonce, l'expression wajib datang bersama pemandu wisata. Wajib datang bersama pemandu wisata. Il faut venir avec un guide touristique. Est utilisé par les guides touristiques pour expliquer les règles d'arrivée sur l'île de Komodo. À savoir, venir avec un guide touristique. Chers amis, un autre exemple. Allons écoutons un autre exemple d'expression pour transmettre des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Sur des attractions touristiques. Harus menjaga kebersihan. Harus menjaga kebersihan. Doit maintenir la propreté. Harus tetap tenang. Harus tetap tenang. Faut rester calme. En plus de devoir venir avec un guide touristique, les touristes qui viennent sur l'île de Komodo doivent rester calmes et ne pas faire de mouvements brusques. Cela fera que les dragons se sentent menacés afin qu'ils puissent attaquer les visiteurs. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kalau saya datang ke sini sendiri, boleh tidak?
Tidak boleh. Wisatawan wajib datang bersama pemandu.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Merbau Bersiram Darah, qui est chantée par Rini Fahriani. Créée par Mufti Encikdam, cette chanson raconte d'un commandant calomnié pour s'emparer du pouvoir du roi. Se livrant à l'incitation, le roi se fâche et le sang coule à Merbau. Merbau est un sous-district de la région des îles Meranti, Riau. Bon, chers auditeurs, voici Merbau Bersiram Darah de Rini Fahriani. Bonne écoute!
Terima kasih. Dan terjadilah di Kuala Merbau pertumpahan darah. Dua panglima adu tenaga, adu perkasa. Raja mengutuk panglima
sang. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.